Bonjour Eric.
Bonjour Eric.
Bonjour.
Tu reviens des vacances.
Mais je reviens tout le temps de vacances.
Ah, je reviens d'où?
Alors ben, je reviens, ben, tu l'as dit, je reviens du Japon.
Numéro 1 des Coréens.
Des Coréens,
c'est ce qu'on a dit mercredi dans le journal.
Ben voilà, et alors comme je suis en Corée, ben voilà, je fais comme les Coréens, c'est logique. Et alors en fait j'étais déjà allé il y a un an, mais j'étais allé à Kyoto et à Nara, c'est très beau, il y a plein de temples, mais j'étais pas allé à Tokyo, et donc là j'y suis allé. Et alors Tokyo, il faut dire que c'est quand même c'est assez hallucinant, comme je disais, c'est un peu un choc quand on arrive. Et alors évidemment, c'est un peu affiché, mais c'était difficile de ne pas comparer Séoul et Tokyo. Alors c'est ce qu'on va faire en prenant quelques points de référence, mais en n'oubliant pas bien sûr que, comme on dit, hein, comparaison n'est pas à raison. Alors on va respecter la chronologie, hein. Quand on arrive par l'aéroport, donc c'est ce qu'on va faire. Donc l'aéroport... à Tokyo, alors l'aéroport principal c'est Tokyo Narita, il y en a un autre qui est Haneda, mais moi je suis arrivé par Narita, et alors là je suis désolé, mais par rapport à l'aéroport principal de Séoul, Incheon International, c'est vrai que Narita ne tient absolument pas la comparaison. Alors l'aéroport de Séoul, je vous en avais déjà parlé, Incheon International, c'est un aéroport tout moderne, très beau, très clair, avec beaucoup de vitres, beaucoup de plantes à l'intérieur, beaucoup de bois, donc c'est un plaisir d'y être.
Des expositions, des concerts.
Et absolument, des fontaines, enfin c'est bon. Et alors, comment dire, Narita à côté, INT, elle est aussi, c'est un peu, c'est une grosse gare, quoi, en fait. Hein,
oui, et moi, j'y suis allé dans l'autre sens, puisque moi, je suis arrivé, mais je suis aussi reparti de Narita, donc là, elle est vue dans les deux sens.
C'est pas plus concluant.
L'embarquement, c'est même assez pénible. En fait, on fait la queue, ouais. et on ne peut rien faire, il n'y a pas de place, il y a des files d'attente qui sont faites à la va-vite. Enfin, c'est pas...
Ouais. Alors là, j'ai pas vu dans ce sens-là, moi, je suis juste allé, parce que je suis reparti de l'aéroport Kansai International, près de Kyoto, qui, pour le coup, lui, est très bien. Mais Narita c'est assez sombre, il n'y a pas grand chose, ça fait un peu gare de banlieue, c'est assez bizarre. Mais alors cela dit, bon, une fois qu'on est arrivé, et une fois que depuis Narita on est arrivé à Tokyo même, ce qui n'est pas évident d'ailleurs, les liaisons ne sont pas terribles, mais bon, là c'est vrai que Tokyo c'est quand même presque littéralement à couper le souffle, hein, c'est absolument hallucinant. Alors, Tokyo et Séoul, il y a certains points communs, c'est-à-dire que ces deux villes très modernes, parce que c'est deux villes qui ont été très largement détruites, Tokyo pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis Séoul surtout pendant la guerre de Corée, et donc tout a été reconstruit. Mais alors que Séoul, on en avait déjà parlé, hein, bon, c'est une ville intéressante et tout, mais c'est pas vraiment une belle ville, il y a surtout des blocs de béton un peu partout, hein, et en plus c'est vraiment pas une ville faite pour les piétons, il y a très peu d'endroits pour se balader. Tokyo c'est complètement différent. Alors, c'est pas forcément une belle ville non plus, mais d'abord c'est une ville qu'on peut très facilement découvrir à pied, ça c'est une énorme différence avec Séoul, à pied ou en vélo, d'ailleurs il y a plein de monde qui se balade en vélo.
T'as emprunté un vélo ?
Alors moi non, j'ai fait à pied, mais il y a beaucoup de monde, il y a pas mal de monde à vélo, il y a des pistes cyclables un peu partout, et au passage piéton, il y a une partie qui est réservée au vélo, ce qui est évidemment à peu près inimaginable à Séoul. Et alors on peut vraiment se balader. Alors encore une fois, Tokyo c'est pas forcément une belle ville, mais une grande différence avec Séoul, c'est que ce qui a été construit c'est très moderne et c'est beaucoup plus ambitieux architecturalement, hein. Si vous aimez l'architecture contemporaine, franchement Tokyo ça vaut le coup. Je crois qu'à part New York, il n'y a pas beaucoup de villes aussi intéressantes que ça pour ça. Il y a énormément de buildings qui sont très ambitieux architecturalement, qui sont très intéressants esthétiquement, avec des formes très très recherchées.
D'ailleurs, à propos de Séoul, j'avais lu quelque part que beaucoup de buildings parmi les premiers qui avaient été construits n'étaient pas en fait très originaux, c'était même parfois des copies architecturales d'autres tours qui existaient dans le monde.
Oui, tout à fait.
Enfin, je pense que Séoul, n'est pas encore... Enfin, à l'époque où j'y vis, c'était pas encore très très, à la pointe de ce qui se faisait architecturalement. Mais maintenant, c'est vrai qu'on commence à faire
un petit peu mieux, mais ils sont en train de construire un building près de chez nous, d'ailleurs, à Yoido, dans le centre, qui a l'air intéressant. Mais bon, cela dit, donc Tokyo, alors là, il y a vraiment, là, c'est très innovateur. Alors, un exemple parmi 100, le building de l'administration de Tokyo, qui ressemble un peu à une cathédrale, en fait, avec deux tours qui ressemblent aux deux tours de Notre-Dame, par exemple. Tout près, il y a un building qui est en train d'être achevé, qui est une sorte de, je sais pas comment expliquer ça, d'obus, c'est assez étonnant. Donc vraiment, il y a énormément de choses à voir. Mais alors, peut-être que finalement, ce qu'il y a le plus à voir, c'est les Japonais eux-mêmes. Alors, encore plus qu'à Séoul, vraiment, à Tokyo, on est submergé par un flot humain.
Là, c'est normal. Puisque à Séoul, les gens ils sont dans leur voiture, alors que
parfois ils marchent beaucoup plus, et tout à fait. Et alors, le résultat, c'est que ce flow humain, c'est lui-même un spectacle. Vraiment, rien que regarder les gens et la façon dont ils sont habillés de façon très diverse, probablement plus diverse que les gens à Séoul. Donc rien que ça, c'est un spectacle à part entière. Si vous allez dans les quartiers branchés comme Shinjuku ou Shibuya, ben, une bonne partie du jeu, justement, c'est de regarder la dernière mode vestimentaire que portent les jeunes hommes et surtout les jeunes femmes. Alors vous avez vraiment tout.
Surtout les jeunes femmes.
Bah oui, ça serait dommage de frire. Non, mais les jeunes femmes sont beaucoup plus sensibles à la mode, même si il y a des hommes très bien habillés à Tokyo aussi. Alors ça va des shorts ou des jupes ultra mini, je parle bien sûr des jeunes femmes, jusqu'aux jupes longues à froufrou avec des dentelles. Vous avez aussi des accessoires de cuir un peu goth. Vous avez vraiment de tout. Et alors un autre truc aussi. Alors c'est déjà vrai à Séoul, mais c'est encore plus le cas à Tokyo, c'est que presque tout le monde se teint les cheveux. Et d'ailleurs, bon, là, les femmes encore plus, mais même les hommes, et notamment donc dans les quartiers branchés, c'est quasiment impossible de voir une femme qui a sa couleur de cheveux naturelle. Elles ont tout au minimum un balayage, mais souvent elles ont carrément les cheveux teints. Alors la couleur qui est très à la mode en ce moment, c'est, je sais pas comment expliquer ça, c'est une espèce d'auburn en plus clair, c'est une espèce de mélange entre un peu châtain, blond et roux, quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a environ 5 ans, je crois, en Corée, il y avait eu aussi un phénomène de mode comme ça. Il n'y avait plus une Coréenne qui avait les cheveux noirs.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens de ça. Il n'y avait plus une Coréenne qui avait les cheveux noirs. Et puis ça s'est adouci. On en a revu qui sont revenus avec une couleur plus naturelle. Puis maintenant, on a un petit peu de tout.
Il y a un peu de tout. Il y a des femmes qui ont les cheveux teints, mais il y a quand même pas mal de femmes qui ont leur couleur naturelle, quoi. Et à Tokyo, vraiment, ça devient difficile de trouver une femme qui n'a pas les cheveux au minimum, donc avec un balayage. Et puis alors, une autre chose qui est très très bien à Tokyo, alors je vous l'ai dit, on peut le découvrir à pied, c'est même sans doute la meilleure façon de découvrir la ville. Et puis ce qui est très bien, et là aussi c'est quelque chose qui manque un peu à Séoul, c'est que quand on est épuisé par ce flot humain sur les grands axes, ben on peut presque toujours donc quitter les grands axes, prendre une petite rue, et là on tombe sur un petit dédale de rue sympa où il y a beaucoup moins de monde et on peut vraiment se balader tranquillement. Et ça c'est vraiment très agréable, quoi. On peut vraiment alterner entre les grands axes très modernes et puis les petits quartiers très sympa, très très agréable, très tranquille en fait. Alors avec tout ça, évidemment, pour assurer tout ça, il faut bien prendre les moyens de transport. Et alors là, à nouveau, quand même, avantage à Séoul. À Séoul, on a déjà parlé, les transports communs sont très peu chers, le métro très bien, pas cher du tout, même le taxi très raisonnable. Alors, de manière générale, Tokyo, c'est une ville plus chère que Séoul, même si c'est pas forcément du tout la catastrophe à laquelle on pourrait s'attendre. Alors, Tokyo a une réputation qui est très chère. C'est relativement cher, mais on peut s'en tirer. Mais alors, c'est vrai que les transports, c'est quand même c'est un poste de dépense important, c'est nettement plus cher. Alors, le métro de Séoul, de Tokyo, pardon, est bien, mais il a deux défauts. Tokyo est tellement étendu que rien que regarder le plan du métro, on en a un peu mal à la tête.
Il y a énormément de lignes. Hein.
Il y a énormément de lignes, il y a plein de connexions, et quand on regarde ça, on panique un peu. En fait, après, quand on l'a dit, que c'est pas si difficile que ça, mais au premier abord, on se dit, oula. Et puis, c'est quand même cher, hein. C'est facilement deux fois plus cher qu'à Séoul. Et puis alors un autre problème, c'est que toutes les lignes ne sont pas gérées par le même opérateur. Donc souvent quand on fait un changement, si on change et qu'on prend une ligne qui est gérée par un autre opérateur, et ben il faut repayer.
Ce n'est pas le cas en Corée.
Ce n'est pas du tout le cas à Séoul.
En Corée aussi, à Séoul aussi, c'est plusieurs opérateurs.
Mais c'est un système
Et
à Tokyo non. Alors donc voilà, ça fait de l'argent en plus. Et puis bon, il faut même psychologiquement, c'est un peu pénible. Et puis, le taxi, alors là, c'est vrai que c'est très très cher, beaucoup plus cher qu'à Séoul. À Séoul, on peut prendre un taxi assez facilement, hein. À Tokyo, vraiment pas. J'ai pris un taxi une fois parce que je voulais aller au marché aux poissons et qu'il fallait arriver très tôt. Mais c'est vraiment cher. Mais quand même, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est très classe, parce qu'il y a un truc, c'est que dans les taxis à Tokyo, les portes s'ouvrent toutes seules. Vous arrivez, le taxi arrive et vous n'avez même pas le temps de tendre la main, pof, la porte s'ouvre. Et quand vous arrivez à destination, c'est pareil, vous arrivez et hop, ça s'ouvre, c'est magique.
Il faut faire attention, si on n'est pas au courant,
Bah c'est oui, si on s'appuie sur la porte par exemple, c'est pas forcément un bon plan.
Mais c'est quand même un peu surréaliste, quoi, mais non, c'est pas mal. C'est vrai que pour le prix que c'est, ils peuvent bien faire ça au moins.
Et puis alors on en arrive à
le rapport entre les Japonais et les étrangers.
Les rapports entre les Japonais et les étrangers, et bah, alors par rapport au rapport entre les Coréens et les étrangers, je dirais que bah, c'est peut-être parce que le Japon est un pays qui s'est ouvert plus tôt que la Corée. C'est un peu plus facile, c'est-à-dire que
quelquefois les Coréens ont un peu tendance à, c'est pas de la mauvaise volonté, ils ont un peu tendance à paniquer devant les étrangers, ils ne savent pas s'y prendre. Et on n'a pas ça avec les Japonais, ils sont beaucoup plus tranquilles, ils paniquent pas. Et si on n'arrive pas à se faire comprendre, bah, ma foi, c'est pas grave, ils vous font un grand sourire, puis tant pis, on passe à autre chose. Mais il n'y a pas ce côté, mais comment on va faire, quoi. Et puis une autre chose, c'est que les Japonais ne parlent pas forcément plus anglais, beaucoup plus anglais que les Coréens, mais ils l'utilisent mieux. C'est-à-dire que les quelques mots qu'ils ont, ils arrivent à vous expliquer. Alors, à Séoul, c'est pas toujours le cas.
Alors, est-ce qu'on dit hi?
Est-ce qu'on dit hi à Tokyo? J'attendais cette question. Alors, oui, mais pas comme à Séoul. Alors, à Séoul, je vous en avais déjà parlé, hein, le grand truc dans la rue, quand vous êtes blanc, en gros, c'est que vous avez des enfants qui passent, et qui apprennent l'anglais à l'école, et ils se mettent tous à vous dire « hi, hi, salut » en anglais. Donc, bon, la première fois, c'est mignon, mais au bout de 15 fois, 10 minutes, hein, on a envie d'en prendre un pour taper sur les autres. Alors, à Tokyo, c'est autre chose. On dit beaucoup « hi », mais simplement parce que « hi », ça veut dire « oui » en japonais. « Hi, hi », voilà. Et donc, ils disent « oui ». On dit « hi » dans le sens « bonjour », c'est quand vous arrivez, par exemple, à la caisse d'un musée, où là, effectivement, la caissière va être gentille, elle vous dit « hi », mais alors, dans le sens « bonjour », mais alors, du coup, c'est assez étonnant, on peut avoir toute une conversation rien qu'avec des « hi » au Japon. Donc, vous arrivez à la caisse du musée, on vous dit « hi » dans le sens « bonjour ».
En
anglais, voilà, hi en anglais. Et puis après, bon, vous demandez un billet, on vous dit hi en japonais, on dit c'est oui, donc hi, deuxième hi. Vous donnez l'argent, on vous redit hi, toujours en japonais, on vous donne le billet, vous faites un signe de tête, re-hi. Puis après, la personne qui arrive derrière vous, c'est un occidental, il arrive, et cette fois la caissière lui dit hi, mais en anglais, et c'est reparti pour un tour. Donc on peut tenir très longtemps comme ça, et si en plus, vous pouvez aussi faire comme les japonais, c'est-à-dire que les japonais disent très souvent hi dès qu'on leur dit quelque chose, quand un japonais dit un truc, vous lui dites hi comme ça, et si en plus vous rajoutez de temps en temps quelques sumimasen, ça veut dire excusez-moi, et les japonais disent ça absolument tout le temps, vous pouvez tenir un quart d'heure comme ça, à coup de hi, de sumimasen, de temps en temps vous faites so, qui veut dire oui, les japonais font ça, et on peut faire illusion. Moi je dirais bien 20 minutes, hein, facile.
Donc
le Japon, c'est très facile.
Les Japonais sans peine.
Les Japonais sans peine, pas de problème. Et puis alors enfin, bon, je pouvais pas terminer sans parler de ça, parce que je sais que certains de nos auditeurs auraient été déçus.
Par la nourriture.
Ben oui, alors, on mange très bien à Séoul, mais on mange aussi très très bien à Tokyo. Alors vous avez vraiment de tout, mais alors un de mes plans préférés à midi, c'est d'aller en fait au rayon gastronomie d'un grand magasin et d'acheter un bento. Alors un bento, je sais pas si vous savez, il paraît que ça commence à être à la mode à Paris d'ailleurs.
Oui, j'ai lu sur internet.
Voilà, alors mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un panier repas, mais comment dire, c'est un panier repas de luxe, quoi, en fait, où tout est rangé, c'est délicieux. Vous pouvez prendre un bento sushi, un bento, je sais pas moi.
Avec du tonkatsu.
Voilà, par exemple, avec des choses frites, etc. Et puis on vous emballe ça, c'est artistique et tout. Et donc vous prenez ça, moi ce que j'adore faire, je prends un bento sushi par exemple, je prends une bière, puis je vais aller manger ça sur un banc et c'est parfait.
Un bento sushi, ça coûte à peu près combien?
Un bento sushi, on peut s'en tirer pour, je sais pas, aller autour de 1000, même un peu moins de 1000 yens, donc 7,50€, 8€, quoi. Mais c'est parfait, quoi, c'est vraiment impeccable. Et alors, puisqu'on parle de bière, alors j'ai commencé, ben oui. Alors j'ai commencé cette chronique en donnant avantage à Séoul pour les aéroports. Je suis obligé de la terminer en donnant très 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 nettement cette fois avantage à Tokyo et au Japon pour la bière. Avec, bon, encore du sucre dans la bière, mais elle n'a pas vraiment de goût. Alors qu'en Corée du Nord d'ailleurs, il y a de la bière qui est tout à fait correcte. Hein, mais bon, en Corée du Sud, non, elle n'a pas... C'est un peu l'école...
Si je ne me trompe pas, en Corée du Sud, c'est l'école américaine.
Et là, l'école industrielle américaine, parce qu'il y a des bonnes bières artisanales américaines, mais pas...
Tout à fait.
Et alors qu'au Japon, où c'est plutôt l'école allemande, là, il y a vraiment des très très bonnes bières, y compris maintenant des bières artisanales qui sont vraiment... qui valent vraiment le détour. Et pour résumer, en fait, pour mon impression de Tokyo, je dirais, bon, c'est vraiment fascinant, mais c'est épuisant. En partant, je me suis dit c'est un peu dommage que j'ai pas réservé plus de temps pour plus en profiter. Et en même temps, j'étais un peu soulagé parce que c'est vraiment une ville épuisante.
Après Singapour, le Japon.
Voilà.
Et ensuite, tu pars pour...
Je vais aller en Russie dans 2 semaines.
Bon, moi, pour l'instant, je vais aller manger parce que tu m'as donné faim.
Ben oui, avec tous ces bento et tout ça.
Merci Eric, au revoir.
Au revoir,
à la semaine prochaine.
Auditeurs du Maroc, d'Algérie, du Canada et du monde entier, vous êtes ici en Corée du Sud, chez vous, sur KBS World Radio.